Chapitre 2 Les Mortiripuaires. De l'autre côté de la Loire, les hommes passent au café une grande part de leur temps. C'est là que, sous la rose, on les entend discourir de soi-même, du prince, ou plus secrètement de leur plaisir, et confesser à pleine voix des mystères que personne autour d'eux n'a souci d'entendre. L'apéritif, surtout, est propice à faire de l'estaminet un agora tout bruissant de paroles, qu'on dirait mille mouches ivres d'absinthe. C'est l'heure où chacun parle et nul n'écoute, on délibère. Vitalis et son compagnon s'y étant rendus de bonne heure, il n'y avait encore dans la salle que deux commis voyageurs et M. Petrarque Lescara sur la terrasse qui relisait son article. Il accompagnait cette délectation morose de sourires et de grimaces. Elle fut tout à coup troublée par les éclats d'un tintamarre qu'on entendit retentir de l'autre côté de la rivière, dans le quartier Saint-Éloi. Bonjour. Oh, v'là les griots, dit un homme couleur de brique à figure de soldat qui s'assit à leur table. Bonjour, mon capitaine, répondit Vitalis. Ah oui, en effet, ce sont eux. On voyait les musiciens, en bel ordre, gravir le poncelet qui, par-dessus les eaux graisseuses de Salé, unit la rue de l'Empereur de Russie, ci-devant les Esclopiers, à la place Jeanne. Ils marchaient avec noblesse, les plus petits d'un air héroïque, cependant que tintinabulait, comme une mule d'attelage, sous les médailles de clinquant, la bannière de la fanfare, toute rouge, et qui portait écrite en exergue du cochon rampant de ses armes, emprise des jambons dont Rinabourg tire sa gloire, ces mots en latin d'or, virtutis premium, la récompense de la vertu, du courage. Mais quel vaillant, certes, il fallait pour jouer si exécrablement une si exécrable musique. Un paysan, apparemment fait de parchemin et de nœuds, l'apportait, appuyé sur son ventre, tandis qu'à lentes, longues enjambées, une espèce de géant roux tenait sa droite en jouant du hautbois. Le chalumeau qui nasillait dans sa bouche avait l'air d'un sucre d'orge, et quand il s'arrêtait d'y sucer, on voyait au fond de sa barbe étinceler son sourire comme une salamandre dans le feu. « Tiens, le patron était revenu de la pêche, » observa Vitalis, en apercevant ce buisson de flammes. La gauche était tenue par l'horloger du lieu, Poupard chauve, extrêmement cocu, qui semblait placé là pour contraster un haut notaire. Quelques bicyclistes, des gamins, deux portefaix de la gare, ivres en perfection, qui se tenaient par la taille, achevait le cortège qui se tut en abordant la place Jeanne. Et là, tous, avec des regards dont la férocité se fixait sur un ennemi qui, par son absence, trahissait assez le peu de son cœur, fit retentir la mortiripuaire hymne, fier neveu, en disant les refrains fier neveu des francs ripuaires, courons en vrais républicains défendre la main dans la main les privilèges de nos pères. Vers 53, on y avait introduit une variante qui fut abandonnée en 72. Les deux vers médians disaient alors « Courons défendre l'empereur et fruit d'une antique valeur, etc. » De nos jours, un instituteur radical socialiste avait encore essayé d'un nouveau texte, mais qui ne plut guère qu'au sandalier. Enivrés de lyrisme et du bacchus acide de leur vigne, on les entendit d'ores en avant, dans quelqu'un de ces chaises étroites, où par le soupirail un oblique rayon du couchant réveille les moucherons du vinaigre, et qui hurlait « Compagnon mortiripuaire, fils de la solidarité !» Courons défendre en liberté les privilèges de nos pères. » Ces vers font allusion aux mines d'étain de Ribamour. dont le produit, pour une part obscurément fixé depuis le règne de Gaston Centule, par des procès en grand nombre contre l'État, la ville, l'administration des mines, appartient par primogéniture aux descendants de la communauté des Parprenants. Ceux-ci, à force de litiges, de meetings, de comités, de brochures, avaient fini par se prendre pour un membre important de la France. Toutes ces confuses controverses, tant de sottises, et ce peuple riche en prétention comme en crasse, importunait Vitalis, encore qu'il fût parprenant, et perçut de ce chef jusqu'à 25 francs dans les bonnes années. Mais il ne concevait point que cette main morte instituât une noblesse. Vous allez voir, dit-il au capitaine Laharan, qui vont encore nous courir avec leur état, leurs eaux, leur partage. Les fontaines issues de la mine et qui par ainsi appartiennent aux parprenants sont depuis trois quarts de siècle qu'un pharmacien homme d'esprit les a découvertes, en usage contre les maladies nerveuses. Elle garde même, à travers les caprices de la mode, une clientèle assez nombreuse et qui fait toute la fortune de Ribamour. Mais les sandaliers du lieu, qui forment la majorité des propriétaires de la mine, peuple d'ignorants, de paresseux et d'ivrognes, et qui ne tirent rien, eux, des étrangers, que la location des sources, exploitées au préjudice du minerai, se plaignent à grand tapage de perdre la combinaison. Il n'est point vrai d'ailleurs, l'étain de nos jours ne se vendant plus guère, au lieu que la société des sources neurasthénothérapiques les paie de 20 à 30 francs par tête, selon l'année. Encore, si ça me rapportait 2 pistoles par an, comme à vous, répondit le capitaine, qui plaisantait souvent de sa bourse. Il avait aussi légère que la tête, avec un nez busqué, des yeux couleur de saphir, un jargot rapporté pour la plus grande part de l'armée d'Afrique. Sa femme, personne sans éclat, excellente et pleine de mélancolie, l'entourait d'une affection qui avait naturellement l'air d'être inconsolable. La fanfare s'était débandée, après avoir exhalé ses derniers accents devant les myrtes en pot de la terrasse, étonnante flore nourrie d'une absinthe mêlée au venin du bifteck, et qui ne voulait pas mourir. Quelques musiciens entouraient le tailleur poète en lui bourrant le dos de leur sympathie. Les Diou Biban et les Diou Bedaou se croisaient dans l'air. Ernaoutou, ordonna Madame Beaumessine au porte-bannière, qui d'autre part était son piqueux, tu rapporteras l'oriflamme à la mairie, et puis reviens boire une pinte. Le taciturne valet, qui ne parlait guère qu'à ses chiens, s'éloigna sans répondre, ayant pour marcher plus à l'aise, mis la bannière sur son épaule, telle une pioche, tandis que le notaire venait s'asseoir entre Vitalis et Monsieur Laharan. Eh bien, capitaine, quoi de neuf? demanda-t-il de sa voix pleine qui sonnait comme le bronze. Oh, pas grand-chose. J'ai eu l'honneur de conduire votre femme à Arès et la mienne au diable, en revenant de chez les Saintes-Maries qui s'étaient remisées ailleurs. Bon, répondit Madame Beausécime à travers son grand sourire, quand le gibier vole de compagnie, c'est qu'il n'y a plus bataille. Oui, il paraît que la petite baronne a pardonné encore. Oh, ça durera ce que ça pourra. Pour l'empêcher de courir, celui-là, il faudra lui casser une patte. À ce moment, un vieux homme, dont les yeux dormants s'étaient démentis par sa bouche caustique, survint et détourna le discours. C'était le philologue d'Essoukazo, maire de Ribamour. Vous avez su? demanda-t-il d'un air de mystère. Su quoi? L'onagre réalise. Ces paroles, dites en manière d'énigme entre haut et bas, offraient sans doute un sens précis aux 4 ou 5 personnes qui étaient à portée de les entendre. Aucune n'en parut heureusement affectée. Aucune non plus n'en marqua de surprise. Firmin de Mesplède, toussa, Le capitaine fit une espèce de grimace, et l'on aurait pu voir tomber, comme un masque qui se dénoue, le beau sourire de maître Baudésime. « Qu'en sait-on ? » répondit-il enfin. « Moi, j'ai de bonnes raisons. Tut, tut, tut !» fit M. de Tsoukazot, qui examinait sa manche râpée comme s'il eût été un texte d'autrefois. « Moi, j'en ai de mauvaises de peau. » M. Lescat y fut l'autre jour voir quelqu'un que je ne sais, lui disant en substance qu'il était là des affaires et plus encore des gens, qu'il n'avait pas fermé sa banque, voilà 10 ans bientôt, pour y travailler à blanc, qu'il allait faire recouvrer ses créances par un avoué ou quelque homme d'affaires. Nous saurons bientôt qui, ou, oui, oh bien assez tôt. Enfin qu'il voulait avoir son argent entre les mains avant de mourir et laisser du solide à ses héritiers. Le juge de paix grogna, et l'on s'aperçut qu'il s'était rapproché entre temps des causeurs. Mais l'attention était trop bandée d'ailleurs pour qu'on songeât à cause de lui à se tenir sur la réserve. « Tiens, c'est vous ?» demanda pourtant le Ridi. « Quel convent vous amène ?»« Ah oui, chez héritiers !» s'exclamait en réponse M. Petrarque Lescar. « Oh, je pense qu'il n'est pas autrement pressé de leur fournir des pépettes. D'ailleurs, je m'en contrefiche. » « D'autant plus, observa M. de Tsoukazot, que vous êtes plus âgé que lui, n'est-ce pas ?»« Mais qui vous parle de moi ?»« Oh non, je vois, ce n'est qu'à propos de Vitalis que vous en disiez. » Plusieurs lignes d'héritiers menaçaient cette fortune à des degrés inégaux. M. Diodore Lescar passait pour très riche, et l'était bien plus encore qu'on ne croyait. Seul neveu de banquier, d'armateur, dont plus de 2 siècles avaient accru l'opulence, et Ribamour, d'où il sortait, toujours craint les puissantes serres qui la tenaient au ventre, financier comme eux, mais à sa guise et de haut, orgueilleux, nomade, aux dangereux caprices, il avait attendu 50 ans pour se poser. Quand la nuit tombe, l'aigle de mer qui ferme ses yeux d'or regrette-t-il sa journée, et de la chasse où planèrent ses ailes l'horizon creux ? M. Lescat n'en fit à personne ses confidences. On eût dit seulement, quand il fut vieux, qu'il voua plus de vigilance à des biens qu'on ne croyait pas qu'il eût amoindri. Plus près ou plus loin, toujours y en a-t-il beaucoup d'autres, reprit le maire. Je comptais tout à l'heure 17 foyers où se rallume chaque matin la même espérance avec le feu. Vous en faut-il la nomenclature, monsieur le juge de paix ? Nous avons les Lartigues Lescat, les Lescat dits Tour de Noaud, les Lescat Berry de Bayonne et les Lescat de Castevielle, et tous les Ardiviel et Lescat et tous les... Oui, oui, gronda Pétrarque, mais je me demande seulement s'il est aussi immensément riche qu'on dit. « Quant à ça, dit le notaire, d'un air sombre, n'en doutez pas. Dites-vous bien qu'il pourrait avoir dans sa cave 4 ou 5 fois plus d'or, peut-être que vous n'en voyez en rêve. »« Là, là !» dit Firmin au magistrat, que ses paroles avaient mis en danger de congestion. « Qu'est-ce que ça vous fait, puisque vous n'en aurez pas l'embarras ?»« Du rouge, M. Lescat avait passé au bleu. » Le sang l'empêchait de répondre. Il tourna le dos et s'en fut. M. de Tsoukazot reprit. « C'est un animal rare, nous enseigne Buffon, que l'onagre orgueilleux farouche d'humeur avec cela et de pelure bigarrée. Si vous l'aviez vu, il y a longtemps de cela, un jour que le conseil municipal lui avait de pure malice refusé je ne sais quoi, il ne disait mot, il regardait ses mains. Vous savez, ses grandes mains, et blanches, où les veines font un filet bleu. On lui dit qu'il y tenait, Ribamour, tout entière, comme une nichée d'oiseaux qui crie. Mais, à moins de les étouffer, il ne pouvait faire qu'on se tue, ni qu'on l'aimât. « Bof !» interrompit le notaire, plus gaiement. « Vous nous l'avez fait de romanesque !» Dessous, allez, buvons plutôt. Un export, capitaine. Chouïa, chouïa. On trinqua néanmoins, et le juge de paix qui était revenu. Tiens, dit-il, voilà une particulière qui sera pas à la noce, tu sais, si ton parrain boucle. Vitalis, à qui s'adressait ce discours, reconnut au même instant, sur la place, Madame de Charité et sa fille, qui descendaient de voiture. C'était un boguet très haut sur roue et qui fit découvrir à Sabine, descendante, une jambe aussi pure que la courbe d'une harpe. Et le jeune homme, offensé peut-être que ses yeux ne fussent point les seuls où se dessina le charme de ce contour, reporta sur Pétrarque des regards tels que celui-ci détourna aussitôt deux prunelles en vrille, dont la couleur différente sourlait ou se voilait de rouge. Jolie, remarqua tout à coup une voix aiguë, très jolie, mais un peu maigre pour moi. C'était Lubriquet et Pilou qui entraient en scène, et soit qu'il parlât de Sabine ou de sa jambe seulement, un rire universel accueillit cette opinion du séducteur à titre d'office. Eh, il s'y connaît, ajouta mon maître Bonésime, qui attribuait avec tout ribambourg 1000 nuits d'aventure à ce nabo écrasé sous sa renommée, dont on apercevait d'abord que le ventre et deux oreilles en pointe. Les oreilles du satyre, comme lui-même disait à sa seconde bouteille de pique-pou, au cours d'un de ces beaux après-midi où les mortiripuèrent par petits groupes, l'un d'eux portant au fond d'une besace sur l'épaule de la morue du fromage de chèvre et un quignon de pain, gagnent leur vigne pour y boire jusqu'au soir dans l'ombre vineuse, tandis qu'un rayon du soleil qui tombe jette à travers le soupirail du chai une écharpe de gloire. On n'est pas sans en avoir troussé quelques-unes, reprit Lubriquet Pilou en caressant avec complaisance de ses doigts replets une moustache rare et rase. Mais je tâterai bien aussi celle-là, si poudi. On ne savait toujours pas s'il parlait de Sabine ou de sa seule jambe. L'un ou l'autre offensait mêmement Vitalis, dont Mademoiselle de Charité avait été la bonne amie quand il portait culotte encore, elle des pantalons brodés, dont à la vieille mode le bas dépassait les jupes. Car Madame de Charité, qui était traditionnelle pour ses filles, habillait leur enfance au reste démodé de la sienne, et les déshabillait au moindre accès d'humeur, pour les fouetter toutes deux, encore que l'âge inégal, avec un éclat qui remplissait longtemps la maison. « Mais ces dames n'ont donc plus de groom ?» observa le vieux des sous-cazots. « C'est peut-être son jour d'être jardinier, » persifla Pétrarque, « ou de sarcler la pelouse. »« Bon, ça ne doit pas vous gêner beaucoup, » répliqua Vitalis assez brutalement au juge, « que pour cause de mal-pensée, on n'habitait plus chez Mademoiselle de Charité. » Le notaire s'aperçut de son humeur. « Voulez-vous, si, comme je suppose, Madame de Charité veut aller à la banque, l'avertir que M. Lescar, le vrai, n'est pas revenu d'Orthez ? Vous pouvez le lui dire de ma part. » Le jeune homme remercia son patron d'un sourire et courut vers les deux femmes, qui se trouvant seules en effet, étaient en train de donner leurs ordres à un palefrenier vieil et bossu, mais leste et vigoureuse encore, qui faisait office de lade à la vache couronnée. Cette hôtellerie, dont la façade à poutres noires et le pignon en escalier avaient égayé près de 2 siècles la place Jeanne, venait d'être mise à bas et laidement reconstruite à l'enseigne de l'Hôtel des Princes et du Commerce. Ce n'est que sur quelques terrailles d'Oloron que s'y voyait encore la vache dont Ribamour a dérobé jadis le blason d'osseau. Non plus qu'elle ne pendait sur l'enseigne sonore, de gueule sur champ d'or et clarinet d'azur avec le cri de la viellée « Biblabac » parti d'un cochon naturel, que les peintres du cru, ordinairement accompagnés d'un bouquet de laurier sauce et du calembour franco-latin, sus, sus, qui était le cri de Ribamour. Vitalis, cependant, s'était déchargé de son message, que Madame de Charité parut accueillir avec humeur à la fois et concédant son descendance, tout en redressant sa taille, son riche corsage, son double menton. Mais Sabine, ou Guiche plutôt, comme on l'appelait d'habitude, fit meilleur visage à son compagnon d'enfance. Qu'est-ce que nous allons faire? Demanda sa mère. La jeune fille tira sur sa jupe turquoise, qui était courte jusqu'à la naissance, et que la voiture en outre avait fait remonter. Puis elle haussa les épaules et répondit: Bon, toi, je ne sais pas, mais moi j'ai affaire au jardin public. Vitalis sera bien suffisant pour m'accompagner, s'il veut. Sans deviner pourquoi, depuis un instant, elle le sentait irrité contre elle et lui fit un sourire. Mais il s'inclina sans répondre, tandis que Madame de Charité, qui le contemplait sans bienveillance, encensait sous les plumes de son chapeau comme un cheval de catafalque. Je ne doute pas que M. Pascal ne soit un excellent guide, mais toi, que vas-tu faire au jardin public? Boutique, expliqua-t-elle. Pierre des Pyrénées. Valentine Lafrenay, discrétion perdue avec vicaire Saint-Paul de Grève. Célérité également. Fume-cigarette aventurine, amitié, lettre suit. Et sur ces étonnantes paroles, Guiche s'envola. Il me semble, fit sa mère plus doucement, que tu pourrais. Mais elle s'aperçut qu'elle était seule. Que faire à présent de son après-midi? En soupirant, Madame de Charité prit le chemin de l'église, refuge ordinaire des dames, à la province, qui sont seules. Au tournant, elle vit Sabine, déjà lointaine, suivie de Vitalis, qui avait l'air de ronger son frein, puis tous deux s'arrêtaient. Enfin, disait-il, à quoi pensez-vous de parler à votre mère sur ce ton? Je pense à mon enfance, répondit la jeune fille avec une pointe d'amertume. Moi aussi, quand je vois un paquet d'idiots lorgner cette moitié de robe qui laisse voir vos jarretelles, on dirait qu'on l'a fait déjà trop courte l'autre année pour vous donner le fouet plus commodément. Et il ajouta rageusement: Ben, je donnerai 2 sous pour que votre maman vous le donne encore. Guiche rougit un peu et regarda Vitalis à travers la grille de ses longs cils, en observant avec un bizarre sourire: Ce n'est pas cher. L'ombre des acacias enveloppait d'un glacis transparent le bistre de son visage et faisait virer les bleus verts de sa courte jupe. Ne me criez pas, dit-elle. Mais quant à maman, c'est bien son tour. Déjà l'année dernière. Au fait, y étiez-vous? Demanda-t-elle avec un air de ne pas savoir. J'avais commencé à la démanteler un peu. J'ai des jupes longues, voyez-vous. Ben non, je ne vois pas, interposa Vitalis, toujours irrité. Et le temps n'est plus où je me réfugiais derrière vous, quand j'avais mis du sel dans le bocal à poisson rouge, ou donné le vieux Bordeaux au vieux pauvre. Guiche se tut et regarda l'autre rive de Louse, bordée de maisons, et dont on entendait en amont gronder sourdement le barrage. La demeure d'en face, laide, écrasée, et qui laissait couler le long du mur ses hontes dans la rivière, était flanquée en aval d'une tonnelle ruineuse dont le treillage laissait mourir un lambeau de vigne. Une vieille femme les y considérait avec attention à travers une lorgnette, cependant qu'auprès d'elle un cochon de belle venue appuyait son groin sur le parcrapet. Est-ce que ce n'est pas la maison de ces affreux Pétrarques? Demanda la jeune fille. Oui, et Madame Lescarat elle-même. Cette Souillon avec son petit? Voulez-vous bien vous taire? Une personne de si bonne famille. Son père était un armateur de Bordeaux qui a fait banqueroute. En vérité, et son compagnon? Oh, lui, la fera à la Noël. C'est bien eux, n'est-ce pas? Reprit Sabine. Je veux dire, Monsieur Lescas Pétrarque et sa femme qui écrivent des lettres anonymes. C'est bien mieux, oui, et nous allons leur en donner matière, je pense, car la vieille nous apprend par cœur. Je ne sais ce qui me retient de vous embrasser devant elle pour lui donner un canevas au moins à la dame de bonne famille. Le jeune homme recula un peu. Je vous fais peur? Demanda Guiche et se mit à rire. Non, non, pas vous, les Pétrarques. Ce n'était vrai qu'à demi. Il pensait à Basilida, plus jalouse certes de Sabine que de toutes les servantes de Ribamour. Mais la jeune fille, changeant de sujet, indiqua hors de la ville, plus bas que la dame au cochon, deux girouettes par-dessus des charmilles et le comble d'une toiture haute, vaste et noire. Plus bas, un mur appareillé de pierre et de briques, un mur triste et beau dont la base empâtée était fleuri de pariétaires, donnait à pic sur le Salet où l'Ouse venait de se confondre. En retour d'angle, on apercevait à travers une grille à rinceaux, à fleurs de lys, une cour pavée à galets de couleurs, où des buis taillés en boule, des pyramidions de myrte traçaient des arabesques. Près du portail où le vide d'un écusson détruit soutenait encore le casque bourgeois de l'écuyer, deux lévriers à longs poils se faisaient pendant, pareils à des chiens de marbre, si l'un d'eux à ce moment même ne s'était levé en bâillant. En effet, dit Sabine, c'est pas très drôle chez notre parrain. Oh non. Mais pourquoi y demeure-t-il? Ben, c'est la maison de sa grand-mère, vous savez, les Bouchefer du Casse. Ah oui, les fameux Bouchefer du Casse, comme on dit toujours, quand parrain est là. Qu'est-ce qu'ils ont donc fait? C'était des Huguenots avant Louis XIV qui ont fait la guerre. Et il ajouta, scandalisé peut-être, mais vous ne savez donc rien. Nous en descendons l'un et l'autre. Le plus célèbre qui était lieutenant de Montgomery à la prise d'Orthez, Ducasse Botte de Sang, on l'appelait. Tout ça, conclut Sabine, c'est de l'histoire. Allons-nous-en. Ils furent au jardin public. Déjà le soir, on allongeait les ombres dans l'or d'un couchant qui poudroie. Bon, la boutique aux pierreries est fermée, dit-elle en observant. Bon, je le savais du reste. Qu'est-ce que c'est donc, demanda son cavalier, cette histoire de fume-cigarette? Sabine pouffa. Presque aussitôt, reprenant son sérieux, elle appuya sur le jeune homme la pointe de son regard. Il ne faut pas me croire, dit Alice, quand je parle aux autres. Et tandis qu'il restait de nouveau interdit, promenons-nous où? Promenons-nous, dit-elle. Maman ne me plaquera pas, Ribamour, imagine. Du reste, c'est pas si loin. Et sentez-vous comme les arbres sentent? Au lieu qu'à Paris, ils sont inodores, insipides et solidifiés par Raoul Pictet de Genève. C'est un peintre, questionna Vitalis, qui avait failli n'être pas bachelier pour cause de sciences physiques. Bien sûr, dit Sabine, dont un sourire en fuyant coula les lèvres. Oh, quelle soirée beau chez nous! Regardez de ce côté-là, à travers les branches, la rivière qui se cache et qui reparaît, on dirait les morceaux d'un miroir, et puis très loin une grande colline rose transparente qui barre la vallée. Oui, c'est là à peine de mue. Bon, je ne sais pas, répondit-elle, mais il doit y faire heureux. En haut des montagnes, l'air est si bleu et léger, si volubile, que les bergers, quand ils pensent, c'est à travers les roseaux de leur flûte, et que la peine ne leur pèse jamais au cœur, c'est qu'ils l'ont comme ce duvet qui vole sur les prairies l'été. Mais Vitalis était plus attentif à Guiche qu'à la nature. Les paysages ne l'avaient jamais émerveillé, et celui-ci, pour le retenir, lui était trop connu. Au lieu que Guiche, l'enfant, qu'il avait vu partir 3 ans dans de ça, voici qu'il la retrouvait, femme devenue. Et il restait troublé de son langage, comme devant l'énigme de sa face ou les caprices d'une sensibilité toujours en éveil. Elle le faisait, lui aussi, songer au duvet des chardons qui s'envole tour à tour ou se pose quand le jour est trop chaud, le ciel trop bleu et que la brise semble n'être que le soupir de l'universel amour. C'était pourtant chez Chabine de Charite, avec certaines allures de jadis, la même voix, aussi acide qu'une oreille mâchée, aiguë et fraîche qu'un jet de glaïeul. De même qu'il pensait retrouver la camarade de ses vacances d'autrefois, ardente à jouer, à s'apitoyer, à rire sans éclat, dans la jeune fille, maîtresse aujourd'hui de son port. Chose nouvelle, familière pourtant, qu'il tâtait pour ainsi dire en s'étonnant de la reconnaître. « À propos, reprenait-elle, et mes chiens que j'aime, y a-t-il longtemps que vous les avez vus ?»« Vos chiens ?» fit le jeune homme d'un air de doute. « Ah oui !»« Quoi, est-ce que vous les auriez oubliés ?» Et la balade que nous en avons faite ? Elle leva un doigt. Voyons, il y a... Qu'y a-t-il ? Il y a, chercha Vitalis. Ah oui, il y a... Eu... D'abord, il y a eu, sinistre aux gens furtifs, et sa femme bottine que les Anglais s'obstinent à l'appeler Beauty. À l'appeler Beauty. Et je coûte 3 francs, qui coûta 30 sous, et puis Monototo, qui a tant de poils dessous et tant de poils dessus, qu'on s'en irait, s'en ferait un paletot, ou bien par-dessus, ou bien par-dessus. C'est bien, dit-elle, mais ne les oubliez plus, c'est toute ma famille. Avant-hier, j'ai passé l'après-dînée avec eux dans la prairie. Maman avait des gens que je ne voulais pas voir. Nous étions seuls, les 5, avec de l'espace autour et l'odeur du regain. C'est si bon de se tenir mal, avec ces dessous au grand air, des chiens qui vous lèchent la figure et de l'herbe qui vous entre dans les bas. On est ivre, on voudrait embrasser la terre. Comme Brutus, dit niaisement Vitalis. Elle le regarda avec un peu de surprise, et aussitôt il regretta sa phrase, qui jugea digne du soleil d'éteint. On y continuait d'ailleurs à discuter, Mademoiselle de Charite, et M. Lubric Pilou, en lissant de ses doigts les poils clairs semés de sa moustache, à faire son cours. C'est l'endroit où il brillait beaucoup plus qu'à la pratique. Mais il était seul à le savoir. Et qui aurait pu croire qu'un homme appelé Lubriquet ne passait point le crépuscule à embrasser les bonnes dans les corridors ou à presser quelques grisettes sous la feuillée? On eût dit que Ribamour lui avait délégué vraiment les fonctions de grand séducteur dont ses amis lui donnaient le titre. Et ne fallait-il pas un coupable, au moins, qui représentât ses plaisirs et l'amour défendu par la médisance à tous les autres ? Lieu commun des estaminets, propre à l'équivoque des tables de famille. Comme aussi, sur le pavir dit des églises, aux conversations d'enterrement, M. Lubriquet Pilou, c'était l'ilote de la cité, mais un ilote ivre d'amour et que l'on couronnait de roses. Quant à lui, cette légende qu'il portait à travers la vie, un peu comme une croix, Oh, qu'il l'eût souvent déposé avec joie. Ou bien il lui semblait être le juif errant, et qu'une voix lui cria sans cesse Marche, marche! Tandis que c'était elle, ces créatures, qui au lieu de lui marchaient, comme on dit, marchaient. Depuis plus de 30 ans, il lui avait fallu courir après elles, voir au-devant, en n'ayant peur de rien, autant que de les atteindre. Ce n'est pas très dangereux, une fille, quand on la courtise à 2 ou 3 ensemble. Un air de cavalier, alors des mains au hasard répandues, ou même un secret à l'oreille, tout cela ne coûte guère. Mais de la suivre seule le soir, sous les arbres de la promenade, parce qu'on vous l'aura dit, comme un chien de chasse, Allô, Pilou! Quelle chose, surtout, quand après vous avoir, d'un air d'innocence, entraîné à l'écart. Ah, quand elle se retourne avec cet air d'interroger, d'attendre. D'attendre quoi? Certes, plus d'une de ces beautés, qui soi-même se dévouait au Minotaure, plus d'une est déçue, s'était dit que de pareils taureaux, les boucheries sont pleines. Peut-être même l'avait-elle redite à quelques camarades. Mais quoi, ces taches s'effaçaient bientôt, sans s'étendre. La légende reprenait son éclat. Et qui ne s'y employait? Sa femme même, morte de mélancolie, aussitôt sa fille, capable de le remplacer dans le ménage, s'était sacrifiée toute sa vie avec un sourire que l'on sentait tout près des larmes, à la gloire du foyer. C'est plus fort que lui, disait-elle, il ne peut pas s'en passer. Ça lui vient de son père, qui était la même chose que lui. Car la légende était rétroactive, Don Juan refaisait son père à son image. Est-ce que vous n'exagérez pas, lui disait parfois le curé Cassoubiel, que les confessions du séducteur, où il n'osait faire des vanteries, tenaient au courant du secret de sa vertu. Madame Lubriquet-Pilou, que de tels propos mécontentaient, hochait la tête en réponse, étant de ces épouses qui ne veulent pas être consolées. C'est avec reconnaissance, mais tristement, qu'elle recevait parfois du bonhomme les miettes, comme elle croyait, d'un repas dont c'était presque tous les services. Veuf aujourd'hui, doté d'un déclin de gloire, monsieur Lubriquet, fermier honoraire d'octroi en retraite, trésorier des bains, jouissait d'un passé dont l'éclat boréal ne nourrissait plus de chaleur, mais éblouissait encore. Une tendresse très connue que lui avait vouée mademoiselle de La Bourque, du bureau de tabac, vierge assez bien conservée, à qui l'on supposait des économies, jetait une dernière auréole autour de sa face boursouflée, tachée de rouge, où ses yeux tout petits, sans cils ni paupières, avaient l'air de deux têtes d'épingle en verre bleu. Et il continuait à trancher en matière de cœur, comme aussi les nœuds de cette casuistique de la séduction, qu'il n'y a pas de français ni des plus retenus qui ne l'agitent. On eût dit sur cette terrasse d'estaminet qu'il présidât une cour d'amour. Au fond, continuait-il, cette petite, oh, je ne dirais pas non, c'est clair. Quoi qu'il y ait des pêcheurs, s'ils prennent du fretin, qu'ils rejettent à l'eau, mais aussi, c'est qu'elle a un peu l'air d'un insecte. Et puis, ce teint, l'espagnol. Hé, observa Firmin, il y a de plus les visages. Celui-là, on dirait qu'on l'a sculpté dans une olive. J'aime les olives, moi. Hors d'œuvre, dit monsieur Dessougazeau. Et à beau dire, celle-ci n'a pas assez de sang aux joues. Cela force à penser au reste. On se mit à rire, mais Lubriquet reprit d'un air rêveur. Ah, si vous aviez connu la mer, et quel balcon! Aujourd'hui encore, je l'aimerais mieux. Une femme de son âge, c'est confortable, elle sait ce qu'elle fait. Bon, fit quelqu'un, on sait aussi que vous n'entendez plus pour les primeurs. L'allusion à la buraliste le chatouilla doucement. Le poncelet, protesta-t-il en se caressant de nouveau la moustache avec l'index, tandis que la rondité de son œil se baignait d'un rêve. Non, je n'ai pas cela, mais ces petites filles, qu'est-ce que vous voulez? C'est trop jeune, vraiment, c'est bébête. Ça n'a goût de rien. Goût de rien? S'écria Maître Bonésime. Oh, Sapinou, vous n'avez jamais mordu dans un citron? Monsieur Lubriquet se prit à sourire comme d'avoir compris. Et le notaire, avec ses luisantes dents, avec ses lèvres où sa langue sans cesse avait l'air de lécher un piment, et tout ce poil en feu autour du visage, avec sa lavalière d'écarlate, il avait l'air d'un loup rouge, d'un bon loup, qui rit au fond du bois.